Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes très très contents de recevoir de nouveau Clément Bénèche à la librairie. C'est un de nos fidèles de tout temps, on dira. Voilà, c'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup. Mais oui, tout à fait. Voilà, et donc il est venu déjà nous parler de ses précédents romans. Plutôt Lève-toi et charme, et puis le dernier, Un amour d'espion. Ça, c'était il y a un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, il vient nous parler d'un essai qu'il a écrit, qui s'appelle Une essentielle fragilité, le roman à l'ère de l'image. Voilà, donc je vais vous... Déjà, pour commencer, je vais vous lire juste les premières pages de cet essai. Voilà. C'est quelques lignes. La photographie dans le roman est une question qui n'intéresse pas grand monde, mais sur laquelle chacun a son avis, un peu comme le célibat des prêtres. Voilà, je m'arrête là. Alors, je voulais demander à Clément, justement, qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'écrire un essai après avoir écrit deux romans dans lesquels il avait introduit déjà des photographies et des images dans ses livres, justement.
Merci beaucoup, Sylvie, de ce que tu dis. Et je suis ravi, moi aussi, d'être de retour ici, parce que j'ai vécu à Bordeaux quelques années. Et puis après, j'étais un peu entre Paris et Bordeaux pour plein de raisons. Et puis Mola, c'est un peu ma librairie de cœur, parce que j'y ai travaillé quelques temps, en rayon. Et puis, j'ai animé moi-même de telles conférences... À l'époque où c'était en haut dans les salons Albert Mola, donc c'est toujours très émouvant pour moi de revenir. Et pour parler donc de cet essai, une essentielle fragilité, c'est un essai qui reprend en fait beaucoup de pensées ou de choses que j'ai écrites en parallèle de mes romans pendant ces dernières années. Parce que quand j'ai commencé à mettre des photos dans mes romans, donc c'était il y a 4 ans, mon deuxième roman, comme tu l'as dit, qui s'appelait Lève-toi et charme. Forcément, ça, formellement, c'est une sorte de marginalité, parce qu'on s'aventure dans quelque chose qui est peu représenté dans la littérature. Et donc forcément, comme dans toute marginalité, on s'interroge un peu sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. Et donc j'ai commencé à tenir, j'avais déjà des carnets par ailleurs, et j'ai commencé à écrire pas mal sur cette question, à y réfléchir, à me demander quels étaient les bénéfices de cette pratique, quels pouvaient être éventuellement ses périls également. Et quand mon dernier roman est sorti, qui s'appelait Un amour d'espion, je me suis dit que j'avais un désir d'écrire sur cette pratique, et aussi de formuler, plutôt sur le ton de l'essai que sur le ton du roman, les questions que ça soulevait. Et puis pour moi, et j'utilise cette expression, je dis que la photo dans le roman, c'est une sorte de boîte de Pandore, parce que à première vue, c'est un sujet extrêmement minime et peu préoccupant. Et en fait, j'ai l'impression que quand on examine la littérature, et qu'on se demande ce qu'est un roman, à l'aune de cette idée, à l'aune de l'image dans le texte, ça suscite plein de questions, et sur le chemin, ça invite à se redemander ce qu'est un roman, et à quoi bon aujourd'hui écrire des romans, parce qu'on vit quand même dans un monde où des histoires nous sont racontées sous toutes les formes, où c'est une banalité de dire que aujourd'hui, un service de vidéo comme Netflix occupe quand même beaucoup de nos préoccupations et de notre temps, et d'ailleurs le mien également. Et effectivement, quand on est confronté parfois à certaines séries américaines qui sont non seulement très bien écrites, mais très bien filmées, prenantes, haletantes, on se dit qu'est-ce qu'a encore à nous dire le roman, la forme écrite, la lenteur de la littérature et l'immersion qu'elle nous propose face à ces formes, disons, très spectaculaires de narration. De sorte que finalement, le livre, en prenant le prétexte de la photographie dans le roman, est une réflexion sur la fragilité du romanesque, d'où ce titre, une essentielle fragilité, essentielle parce que indispensable, est essentielle parce que la fragilité, ça fait partie de l'essence de la littérature. Et c'est un peu la thèse que je développe dans le livre. Face à, disons, la puissance de l'image, cette idée que les mots, le langage, incarnent plutôt ce qu'il y a de fragile dans la représentation. Et je repars notamment de la vieille fable du lion et du rat, qui est vieille comme l'Occident. Ce qui est passionnant dans cette fable, c'est pas tant qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça, c'est la morale apparente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les choses qui sont plus petites, elles diffèrent en qualité et pas seulement en quantité. Parce que un lion n'aurait pas pu être sauvé par un minuscule lion. Il fallait avoir des dents de rat pour libérer le lion du filet dans lequel il était enfermé. Et je crois que la littérature, c'est quelque chose de fragile, de minutieux, et pourtant qui n'est pas une version amoindrie de ce que nous propose l'image. C'est une chose qui est unique, qui a une manière de parler ou d'attraper des choses dans le réel qui est propre ou qui est en tout cas unique. Et voilà cette longue introduction pour dire ce que j'ai essayé d'exposer un peu dans ce livre.
Alors la première objection qu'on a pu vous faire quand vous avez justement le désir d'introduire des photos dans votre roman, enfin on peut se tutoyer d'ailleurs, oui. C'est vrai, c'était une sorte d'aveu d'impuissance et puis aussi un soupçon de tricherie. Mmh. Comme si la littérature était une performance ou un jeu. Mmh. Et justement, vous démontrez justement que la littérature n'en est pas un jeu.
Mmh. Oui, alors ça, c'est une question qui me préoccupe depuis longtemps, la question du jeu, du ludique. Et si tu veux, en fait, le livre est composé en trois grands moments rhétoriques. Et le premier grand moment rhétorique, c'est effectivement la tentative d'extraire la littérature du champ du jeu. D'une part parce que, effectivement, quand j'ai commencé à parler de photographie dans le roman, le reproche que j'ai entendu du ludique, puisqu'on me disait, c'est de la tricherie, c'est tricher. Comme si, finalement, écrire un roman était une activité comparable à sauter à la perche ou jouer au Monopoly. Et quand on part de cette idée ou de cette objection, comme tu dis si bien, eh ben, en fait, ça ouvre un champ de réflexion assez fertile, à mon sens, et amusant, qui, pour moi, mène à la conclusion que la littérature, si elle est extraite du ludique, est une activité existentielle, c'est-à-dire qu'elle concourt à la vie réelle. C'est comme l'amour ou le travail. Enfin, ça fait partie des choses qui sont les pierres angulaires de la vie et pas un champ clos comme peut l'être un jeu de société ou un sport. Et bon, cette réflexion, donc c'est une réflexion un peu préliminaire à ce texte qui pourtant, pour moi, est absolument nécessaire du point de vue du développement de mon idée, puisque le texte prend quand même la forme d'une défense de l'emploi de la photographie. Et donc, ce moment est vraiment nécessaire, à mon sens, dans la mesure où, si je n'arrive pas à prouver que la littérature n'est pas un jeu, on peut légitimement me faire le reproche de me dire « Vous n'avez pas le droit d'employer des images dans un roman parce que c'est un jeu. » Et j'emploie une espèce d'expérience de pensée pour exprimer ce que je veux dire. Je m'amuse à imaginer qu'un jour, quelqu'un inventerait un robot qui serait capable d'écrire des sonnets. De très beaux sonnets, imaginons. C'est une expérience de pensée. Quelqu'un qui inventerait un robot qui produirait un sonnet aussi beau qu'un sonnet de Mallarmé ou de du Bellay par minute. Et je me dis, il y a quelque chose en nous qui se lève, une espèce de réaction un peu épidermique. Et cette réaction, elle est aussi de l'ordre de dire c'est de la triche. Parce que, d'une certaine manière, c'est comme si nous regardions la littérature et cette activité qu'est la littérature avec les yeux du ludique, avec les yeux du jeu, C'est-à-dire les yeux qu'on emploie pour regarder, par exemple, une compétition d'athlétisme. Où effectivement, si un mec court le 100 mètres avec des rollers, bah, on va trouver que c'est un peu de la triche. Et pourtant, il n'y a pas en littérature cet équivalent de quelqu'un qui écrirait en prenant une substance. Il n'y a pas de contrôle de dopage des écrivains, quoi, si je puis dire. Et c'est ce qui fait la différenciation, pour moi, fondamentale entre l'activité artistique et l'activité, disons, sportive ou ludique. Et bon, c'est surtout, c'est aussi un moyen de m'amuser un peu avec, avec l'idée de ce qu'est la littérature. Et j'espère que c'est un peu drôle comme passage. Et puis après, on entre dans le vif du sujet quand même.
Oui, enfin, en tout cas, dès le début, tu opposes la vision esthétique à la vision éthique, comme si la littérature était une morale ou quelque chose.
Oui.
Quelque chose. Et donc, bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette théorie-là.
Oui, alors effectivement, ça c'est une distinction qui revient plusieurs fois dans le livre. Une distinction entre l'éthique et l'esthétique, dont je dis qu'ils sont, comme on dit en mécanique des fluides, deux produits non miscibles, c'est-à-dire comme l'eau et l'huile. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si on était revenu finalement de l'idée que éthique et esthétique étaient une seule valeur globale. J'ai entendu récemment à la radio, dans une émission de philo, la notion grecque de kalos kagatos. J'ai découvert ça il y a 2 semaines, et qui est un terme qui désigne cette espèce de valeur qui rassemble le beau et le bien. Parce qu'effectivement, pour la Grèce antique, et puis aussi dans la philosophie de Platon, on voit que ça forme une seule valeur globale. Et finalement, l'invention du beau est quelque chose d'assez récent à l'échelle de l'humanité. Et donc, le beau comme quelque chose de séparé, de ce qui est bien, de ce qui est bon. On pense par exemple à l'esthétique baudelairienne, aux fleurs du mal, à la volonté de décrire une charogne, quand Baudelaire s'adresse à Paris et qui dit « tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». C'est cette nostalgie aussi d'un mouvement ascendant de la littérature, de prendre quelque chose qui est bas et de l'élever. Chose qui, moi, me parle pas mal parce que dans mon dernier roman, je parlais de choses qui, je pense, sont pressenties comme n'étant pas littéraires. Par exemple, est-ce que je parle bien dans mon micro ? Ouais, à peu près. Par exemple, les applications pour iPhone, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est pressenti comme pas littéraire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller essayer de mettre la plume là-dedans parce que ce mouvement ascendant m'intéresse. Néanmoins, j'essaie vraiment de différencier l'éthique et l'esthétique parce que j'ai l'impression que ce reproche de tricherie, il se place également sur le plan de l'éthique et pas sur le plan de l'esthétique. C'est un reproche qui est d'ordre moral. Je ne suis pas contre la morale dans l'absolu, mais je suis pour une différenciation des choses. Je ne suis pas quelqu'un d'immoral, je vous rassure, mais... Mais je pense que la civilisation a inventé une différenciation entre ces deux valeurs. Et moi, j'essaie de retrouver justement une préoccupation, ça fait mal de le dire, mais purement esthétique, peut-être, purement esthétique. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoquer des questions éthiques. Mais comme je dis à un moment dans le livre, j'essaie de parler des images et des mots comme on parlerait du béton, en disant que c'est une matière qui est faite avec un volume de ciment, 2 volumes de sable et 3 volumes de gravier. Plutôt que, alors j'appelle ça une vision, disons, technique, plutôt qu'une vision poétique qui dirait, par exemple, le ciment, c'est l'ambroisie des villes modernes ou quelque chose comme ça. En fait, moi, ça ne m'intéresse pas trop dans ce livre de parler poétiquement des mots et des images. Parce que c'est pour ça que j'emploie en épigraphe du livre une citation de Gombrowicz, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui dit « Les poètes n'ont toujours pas compris qu'on ne pouvait pas parler de la poésie sur un ton poétique. » Et moi, effectivement, j'essaie de parler de ce qu'est la création, de mon modeste point de vue, mais d'un point de vue technique. Qu'est-ce que ça me pose comme problème technique d'écrire avec des mots et des images ? Et donc ça, c'est une vision qui est esthétique, et non pas éthique. Parce que, d'ailleurs, moi, ce que j'aime dans les essais, c'est, enfin, quand je lis des essais sur la littérature et notamment des essais d'écrivains, ce sont vraiment les problèmes techniques qu'ils se posent. Ça ne veut pas dire que j'apprécie pas de temps en temps les déclarations un peu oraculaires sur la littérature et son rôle. Ça, parfois, ça m'emballe, mais j'aime aussi. Et c'est beaucoup plus rare, je trouve, de trouver des réflexions techniques quasiment d'artisans sur ce qu'est le travail de faire un livre.
Les mains dans le cambouis.
Exactement. Voilà.
C'est ça. Oui, donc en effet, le roman représente, donc, selon toi, évidemment, puis c'est ça, cette transmission du réel, mais toujours selon un certain angle, cet angle un peu oblique, un peu indirect. Et ce terme indirect, tu l'emploies régulièrement dans tes romans. Cette opposition directe-indirecte, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça?
Ah oui, alors... oui, c'est, en fait, tout le propos pour moi est de dire que le roman a une façon, disons, spécifique de s'emparer du réel. Une façon qui lui est propre. Quand on dit ça, on a l'impression de ne pas dire grand-chose, mais pourtant, à la télévision, quand on regarde parfois des écrivains qui sont invités dans des émissions, on a l'impression que quand ils écrivent un roman, ce n'est qu'une manière pour eux de faire passer des idées. Comme s'ils avaient écrit un essai dissimulé. Et en fait, ça ne me plaît pas trop, parce que moi, j'ai l'impression que la fiction et le romanesque, ce sont des modes de connaissance du réel. Et en cela, le terme d'indirect, c'est vrai que je l'emploie souvent parce que un roman, là où il m'intéresse, c'est qu'il va parler de manière allégorique, oblique, des choses. Et surtout, il va s'emparer de problèmes sans nécessairement chercher à les résoudre. Ce qui m'intéresse dans un roman, et ce qui m'intéresse, non, plutôt dans un sujet, quand je commence à m'intéresser à un sujet de roman, c'est comment, à partir d'un tel sujet, on peut créer des nouvelles péripéties, on peut créer de nouveaux événements. Et ça, ça m'intéresse plus, disons, qu'un discours sur tel ou tel sujet, comment régler telle crise. Parce que par ailleurs, j'aime les essais. Mais encore une fois, c'est cette différenciation qui m'est assez chère, qui fait que j'aime qu'un essai s'empare d'un problème et essaie de le traiter de façon philosophique. Et j'aime aussi qu'un roman mette le feu à ça. Je dis à un moment que ce qui m'intéresse dans la façon de traiter le réel, c'est d'y mettre le feu, non pas en pyromane, mais en artificier. Une espèce de manière de se servir d'un matériau pour le délirer, en quelque sorte. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui est propre à la littérature, et une liberté, quand même, et j'y pense de plus en plus en ce moment, au fait que le roman, il y a quand même dans l'essence, dans l'ADN du roman, la jouissance d'une liberté, l'exercice d'une liberté pure, et le goût de la fiction aussi. Ça, c'est une chose, j'ai l'impression, qui n'occupe plus tellement l'espace médiatique. Je pense que, bon, je vais peut-être paraître nostalgique, mais j'ai l'impression, rétrospectivement, que dans l'émission Apostrophe, par exemple, on donnait quand même la place aux romanciers, aux gens qui aiment vraiment la fiction. Je me trompe peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus le cas qu'aujourd'hui, où à la télé, on a quand même souvent tendance à présenter les romans comme des livres un peu thématiques. Alors c'est vrai que les romans contiennent des thématiques, mais ils ont une manière de les aborder qui est parfois passée sous silence, et on a tendance à les montrer comme à montrer ces romans ou à les présenter comme des machines à convaincre. Moi, je cherche pas tellement à convaincre dans mes livres. Et je crois qu'il y a beaucoup de romanciers. D'ailleurs, ma réflexion, elle n'est pas que personnelle, c'est aussi une filiation. Je pense par exemple à l'œuvre de Kundera, qui est très importante pour moi, Milan Kundera, qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle L'art du roman, dans lequel justement il tente de montrer que le roman est un genre littéraire qui se différencie des autres. Et il essaie de montrer en quoi, c'est-à-dire un peu de circonscrire son champ d'action et ce que le roman a de propre. Par exemple, il dit, et c'est un peu, ça fait un peu écho à notre discussion tout à l'heure, mais il dit le roman est un territoire où le jugement moral est suspendu. Gargantua et puis plusieurs autres textes de Rabelais, où il y a effectivement une jouissance d'être au monde, une jouissance, disons, de la vie, de la bonne chair, etc., qui est, gratuite est un mot péjoratif, mais en tout cas qui n'est pas assujetti à tenter de prouver quelque chose qui serait extérieur à ce livre. Et dans les écrivains qui ont réfléchi à la question du roman comme, disons, comme manière propre de s'emparer du réel, il y a aussi Julien Gracq, que je cite assez abondamment dans le livre. C'est un peu les deux qui, pour moi, ont réfléchi à cette question de la manière la plus intéressante et que je voulais explorer aussi.
Oui, d'ailleurs, je voulais en parler plus tard, mais c'est vrai que ce livre, c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux écrivains, oui, qui t'ont accompagné, ou peut-être influencé, mais en tout cas accompagné.
Ah oui, alors ça, c'est vrai, c'est très important. C'est comme ce livre, c'est comme un bilan d'étape pour moi, une reconnaissance envers les écrivains que j'aime. Je pense par exemple à cet écrivain des éditions de Minuit qui s'appelle Éric Chevillard, qui est pour moi un des esprits français les plus fulgurants qui soient. Enfin, vraiment, quelqu'un qui m'impressionne de livre en livre et qui, pour le coup, développe une littérature absolument unique et quelque chose qui n'essaie pas de résoudre les problèmes, qui n'essaie pas d'avoir raison d'ailleurs. Et il avait eu une belle phrase dans un entretien d'ailleurs, il avait dit « Ma fierté est que si je n'écrivais pas mes livres, personne ne les écrirait à ma place. » Et donc je me sers beaucoup de son œuvre aussi comme un exemple de ce que peut être le romanesque quand il est porté à son incandescence. Je fais aussi des allusions à des écrivains qui comptent pour moi, comme Patrick Modiano, qui a été vraiment la grande découverte de mon adolescence et qui a fait que j'ai voulu écrire aussi. C'est l'œuvre de Modiano, quand j'avais 17-19 ans, qui m'a ouvert les yeux sur ce que pouvait faire la littérature, sur son pouvoir. Et donc, je m'interroge à un moment, d'ailleurs, sur le fait que chez Modiano, il y a une sorte de faiblesse dans la volontaire, dans sa volonté de montrer des personnages qui justement, est propre au romanesque. Et puis, voilà, je fais plusieurs allusions à des écrivains qui me plaisent. Et ce livre aussi peut être lu comme une sorte de bibliothèque idéale. Oui, j'ai fait beaucoup de clins d'œil aux écrivains qui me sont chers, et notamment aux écrivains contemporains.
Et d'ailleurs, c'est un roman qui est dédié à Régis Debray.
Ouais.
Alors, c'est très amusant parce que la dédicace à Régis Debray, c'est à Régis Debray qui ne sera pas d'accord. D'accord ? Tu vas nous l'expliquer.
Alors, il va falloir une petite anecdote. Parce qu'il se trouve que donc, il y a quelques années, j'animais des rencontres ici chez Mola. Et j'étais déjà un grand fan de Régis Debray et de son œuvre, parce que c'est aussi par lui, c'est par lui que je me suis intéressé à la question de l'image, de la représentation, parce qu'il a fait ce livre splendide et inépuisable qui s'appelle « Vie et mort de l'image », qui est vraiment une somme, et en plus d'une érudition et surtout d'une vivacité d'esprit incroyable, que je cite plusieurs fois dans le livre. Et Debray était invité à Bordeaux pour un de ses livres chez Gallimard qui s'appelait, je crois, « Un candide à sa fenêtre ». Oui, je crois que c'est ça. Et ce n'était pas moi, qui avait malheureusement fait la conférence, mais j'avais eu la chance de le rencontrer un petit peu après. Et on avait échangé 5 minutes et je lui avais demandé ce qu'il pensait, lui, de cette question de la photographie dans le roman, et ce qu'il pensait que c'était qu'il y avait là quelque chose qui pouvait faire une nouvelle voie dans la littérature d'aujourd'hui. Et il m'avait dit que pour lui, l'image allait tuer le mot. Il avait très peur que l'image tue le langage. De sorte que l'éloge que je fais dans le livre de l'introduction d'image dans le texte, je pense que... Et d'ailleurs, je lui ai envoyé le livre, je n'ai pas eu de réponse. Je pense que ce n'est pas trop son opinion. Après, moi, j'ai une manière aussi de défendre la chose en disant que c'est justement parce que j'aime le langage et que j'aime avant tout les mots que pour moi, l'introduction d'image a un sens. Parce que, en quelque sorte, elle libère de temps en temps le langage de tâches un peu subalternes quand il s'agit d'écrire longuement une pièce. Dans mon deuxième roman, j'avais demandé à une amie de faire un plan d'une pièce. Et, parce que j'avais pas un désir fou, j'avais pas de désir pour la description de cet endroit. Je voulais que le lecteur voit en une seconde de quoi il était question. Et en fait, oui, pour moi, c'est un peu comme le mécanisme du vaccin où on met un petit peu de poison pour préserver l'organisme. Et je crois que le principe de ce type de roman, c'est également de mettre quelques images pour vivifier ce qu'il y a de propre au langage, à la littérature.
Oui, c'est ça que l'image apporte au roman, en fait. Enfin, en tout cas, dans cette justement, ce que tu appelles dans ton livre l'esthétique ou la littérature bicamérale, justement.
Oui, alors je crée un mot.
Il crée un mot qui existe déjà. Mais...
Voilà, c'est-à-dire je crée un emploi du mot parce que j'étais un peu frustré. J'ai cherché à lire des textes universitaires sur la question de la photographie dans le roman. J'en ai lu un certain nombre. Et personne ne s'accordait sur un terme pour désigner cette sorte de roman qui inclut des photographies. Et quand on proposait des termes, c'était toujours par analogie avec autre chose. Par exemple, il y a plusieurs universitaires qui appelaient ces livres des photoromans. Malheureusement, ça fait un peu trop penser au roman photo, qui est vraiment différent, que tout le monde connaît. Moi, j'adore ça. Bon, c'est mon péché mignon. Mais le roman photo, ben voilà, c'est ce genre qui est né dans les années 50 en Italie, dans les gazettes, qui a fait des stars. Hein, parce que j'ai vu une exposition à Marseille l'an dernier quand je préparais cet essai. Je suis allé à Marseille pour voir l'exposition au Mucem sur le roman photo. Et c'était très intéressant parce qu'on voyait à quel point en Italie, dans les années 50, ce genre avait créé des stars. Mais des stars, mais comme des stars hollywoodiennes, on les reconnaissait dans la rue. Mais ça se vendait à un nombre raisonnable d'exemplaires, mais c'était lu par des millions d'Italiens qui se le refilaient, qui les découpaient, qui les collaient dans des cahiers. Enfin bref. Moyennant quoi, c'est un genre qui est étroitement lié aux histoires à l'eau de rose. Les essais d'anoblir le roman photo en lui faisant acquérir des sujets un peu plus élevés, se sont un peu soldés par des échecs. Je sais que, par exemple, aux éditions de Minuit, il y a Benoît Peters avec la photographe Marie-Françoise Plissard qui avait essayé, je crois, à deux reprises de faire de tels romans photos un peu sérieux, entre guillemets. Enfin, il y avait des histoires de crimes, mais c'était vraiment écrit, quoi. Et en fait, je crois que Peters lui-même a reconnu que finalement, c'était pas beau esthétiquement d'avoir une photo avec un texte typographié par-dessus, ou des bulles. Donc il y a une impasse là-dedans. Et moi, j'étais un peu frustré par le fait qu'il n'y ait pas de terme spécifique pour désigner ce type de roman. Et donc j'ai proposé, je m'amuse à proposer un terme qui est le terme de roman bicaméral. Pourquoi ? Parce que c'est le terme de bicaméral, ça vient de la chambre caméra en latin, et on l'emploie plutôt en politique pour dire qu'il y a une chambre haute et une chambre basse. Mais moi, ma petite blague, c'est que il y a la chambre de l'écrivain et la chambre noire de l'appareil photo. Donc voilà, je parle de roman bicaméral et je parle d'esthétique bicamérale. Et je propose donc une sorte de nouveau pacte, sans trop d'illusions, mais un peu en m'amusant avec les codes de ce que furent les manifestes au XXe siècle, du futurisme, du surréalisme, du nouveau roman. Et ces moments, disons, où la littérature était une affaire publique. D'ailleurs, le manifeste du futurisme a d'abord sorti non pas en livre, mais dans le Figaro, je crois, en 1910 ou 1911. C'était en pleine page dans le Figaro, je crois même que c'était en une. Et c'est amusant, parce qu'aujourd'hui, c'est amusant quand il y a une querelle littéraire, parce qu'on a l'impression que les gens font semblant. C'est-à-dire que parfois, il y a des trucs dans les journaux. Bon, disons, je sais pas, il y a deux écrivains qui sont pas d'accord sur telle vision de la littérature. On sent que tout le monde est derrière en se disant « Ah cool, il y a un peu de friction, mais c'est pas comme avant où on s'est déclenché des duels ou des duels à l'épée ou alors des lettres d'insultes, notamment les lettres d'insultes qu'avait écrites André Breton à... c'était pas Schlumberger, mais un des premiers de la NRF. Merde. Bon, pardon. Et le type lui avait répondu, il vaut mieux recevoir cette lettre que de l'avoir écrite. Bon, c'était quand même un autre moment. Bon. Et donc, je m'amuse un peu, évidemment, quand je propose... Parce qu'en fait, je voulais à l'origine que le livre soit sous-titré « Manifeste », comme si c'était un texte très prosélyte. Finalement, c'est pas du tout dans ma nature, en fait, d'être prosélyte. Donc, je m'amuse avec les codes de ce truc très injonctif de Breton. Moi, j'adore Breton, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent justement pour ça, pour ce côté, pape, évidemment, un type d'un sérieux inflexible, qui détestait la musique. C'était pas un hédoniste. Hein. Et pourtant, dans son œuvre, c'était quand même un constant appel au rêve, à la rêverie, alors que lui-même était quelqu'un d'extrêmement rigide. Bon, je digresse un peu. Néanmoins, le manifeste du surréalisme, c'est quand même un texte très important pour moi. Et je garde une affection pour ces écrivains qui croient qu'ils vont changer, ils vont donner une nouvelle direction à la littérature. C'est quand même très drôle quand on y pense, parce que Breton, il paraît que quelques semaines après la sortie du manifeste du surréalisme, il était réellement choqué que des gens continuent à écrire des romans réalistes. Comment est-ce possible qu'après, j'ai quand même sorti le manifeste du surréalisme, des gens continuent à publier des livres avec des personnages. Ça l'a vraiment étonné. Bon, cette espèce de naïveté, aujourd'hui, elle paraît à des années-lumière de nous, mais ça m'amuse de jouer avec ces codes-là.
En tout cas, si lui n'avait pas d'humour, toi, tu en as, c'est sûr. Et voilà, en fait, je voulais te poser la question, justement. Est-ce que tu penses que ton livre, c'est un essai sérieusement drôle ou drôlement sérieux?
Alors, le propos fondamental est sérieux, mais j'essaie de, comme on disait à la fac, de pas faire chiant. C'était la grande règle. Non, mais c'est qu'aussi... C'est une porte d'entrée vers ce que j'aimerais dire sur le roman, ce qui me préoccupe sur le roman. Et donc, pour moi, c'est aussi une promenade, pas forcément érudite, mais plutôt amusée, dans des références que j'aime, que j'aimerais faire partager, parce qu'il y a aussi ça, mon plaisir de parler d'écrivains que j'aime, mon plaisir de nommer certaines tendances de la littérature actuelle ou de l'art contemporain qui me sortent un peu par les yeux. C'est amusant aussi. C'est un peu un essai aussi sur l'air du temps. Et donc, c'est vraiment une sorte de flânerie où il y a ici et là un peu de littérature, un peu d'art contemporain. Il y a aussi plein de références à la culture, pop ou la culture plus actuelle. Donc ça, voilà, il y a un moment, il y a une référence à l'émission Interville. Vous voyez, je fais toute une métaphore entre Rimbaud et l'émission Interville. Mais parce que c'est aussi que moi, j'aime bien être clair. Enfin, j'aime bien qu'on comprenne ce que je veux dire. J'aime pas, ça m'amuse pas d'avoir l'air intelligent. je préfère. Enfin, j'aime bien dire des trucs, parfois même si ça paraît simple, des choses plus directes. Donc d'où l'effet parfois de télescopage dans le registre, parce que je cite des sketchs un peu débiles. Et puis, voilà.
Enfin, revenons à cette image, à ce rôle de l'image, justement, dans le roman. Enfin, non, ce rôle de l'image tout court, en fait. Enfin, tu dis que, en fait, l'image et le roman, ce sont deux modes donc, de transmission, évidemment, mais qui ont chacun leur distinction, qui sont tous les deux, qui ont chacun leur singularité. Mmh. Et justement, et ce qui est peut-être leur avenir, c'est justement, à tous les deux, c'est de persévérer dans cette distinction. Oui. Et finalement, est-ce que c'est ça peut-être l'avenir à la fois de la littérature ?
C'est-à-dire que, comme je te disais, il y a vraiment trois moments rhétoriques, et non pas romans métoriques, ça ne voudrait rien dire. Et le deuxième, en fait, c'est là qu'il y a une espèce de petite surprise dans l'essai, dans la mesure où le deuxième grand moment rhétorique, la deuxième grande partie, c'est une réflexion sur la pureté, une espèce de manière de se dire qu'est-ce que la notion de pureté a encore à nous dire aujourd'hui, puisque aujourd'hui, disons, ce qui a cours ou ce qui est admis dans l'art contemporain, par exemple, c'est de marier tous les médiums, de multiplier, de faire de l'art, de la vidéo, plus de la musique, plus de la peinture, etc. Et donc, la notion de pureté est suspecte, déjà historiquement. Elle est quand même chargée d'histoire, malheureusement. Et ce que je dis, c'est que la pureté, c'est un de ces mots que l'histoire a sali. Pourtant, la pureté, c'est une notion qui a une belle valeur. Enfin, l'eau pure, le cœur pur, tout ça, moi, ça continue à me parler. Et j'essaie de comprendre, comme tu dis, ce que chacun de ces médiums, chacun de ces arts, a à nous dire de propre, de singulier sur le réel. Et là où il y a un petit twist ou un petit coup de théâtre dans l'essai, petit, hein, c'est que après cet éloge de la pureté, vient une réflexion et une proposition esthétique qui marie le texte et l'image. Et pourtant, cette proposition ne pourrait pas avoir lieu si je n'avais pas déterminé que le texte et l'image disent des choses différentes sur le réel. Sinon, ça ne servirait à rien. Si les deux avaient les mêmes capacités, ça ne servirait à rien de les marier, sinon pour faire le mariole, quoi.
Sans jeu de mots.
C'est même pas voulu. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les deux se complètent. Ils ont quelque chose de différent à dire. Je parle à un moment de ce proverbe que j'aime bien et que pourtant je trouve faux. Qui peut le plus, peut le moins, qu'on emploie assez souvent. Je conteste ce proverbe avec une phrase de Paul Valéry dans Tel quel, que j'aime beaucoup. Paul Valéry dit « Un cyclone peut dévaster une ville, mais il ne peut pas décacheter une lettre, ni dénouer un nœud de fil. » Et je trouve cette phrase très profonde parce qu'elle nous invite à penser que qui peut le plus ne peut pas forcément le moins. On peut faire des choses très spectaculaires et être incapable de faire des choses peu spectaculaires. Et la littérature, c'est un mode de connaissance du réel qui est attaché à la minutie des choses, à ce qui est fragile, à ce qui est petit, à ce qui fuit. Moi, j'aime la littérature minutieuse. De même que quand je vais voir un film hollywoodien, pour le coup, j'aime voir des grands espaces, des explosions, des bagnoles, des trucs. Parce que les arts ont une manière différente de capter la réalité. Et justement, c'est l'occasion dans ce livre de réfléchir la question de la fragilité. C'est cette essentielle fragilité du langage et de la littérature dont je fais l'éloge un peu en creux. En proposant cette idée de l'image.
Voilà, bon, on a fait un petit peu le tour de la question, mais il y a encore des tas de choses à dire, hein, sur ce livre, parce que c'est un livre extrêmement dense, même s'il est tout petit.
c'est comme le rat dans la fable.
C'est ça, exactement. Voilà, je voulais juste te demander si justement tu as encore le projet d'écrire des romans, justement, ou est-ce que tu vas te spécialiser dans l'essai?
Non, en fait, cet essai était vraiment un pas de côté dans ce que j'essaie de faire comme apprenti romancier. Maintenant, j'ai l'intention de faire un nouveau roman et qui sera une continuation de cette sorte de pacte esthétique, et de sorte que je collecte en ce moment pas mal d'idées, mais j'ai déjà une idée assez précise de ce que va être le prochain livre, et il y aura encore évidemment des images. Et ça se passera en Auvergne cette fois, contrairement au précédent qui était un peu...
Oui, parce qu'en général, ils voyagent beaucoup.
C'est ça.
En général, enfin, ils nous font beaucoup voyager,
en tout cas. C'est un peu aux quatre coins du monde, voilà. Mais là, ça va être dans un petit village d'Auvergne.
Bon, mais enfin, il nous tarde, évidemment. Comme ça, on aura le plaisir de te recevoir de nouveau.
C'est adorable.
Voilà. Donc, écoutez, je remercie beaucoup Clément et puis vous d'être là.
Merci d'être là.